parmi les dieux. Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Qui est comme toi, terrible en louange? Qui est comme toi, opérant de miracles? Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Dieu, le Dieu le plus grand. Tu remplis l'univers. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'unique Seigneur. Tu es l'unique au Dieu. Tu es celui qui n'est pas un Dieu régional. Tu es le Dieu, c'est dans tout l'univers. Tu remplis l'univers, tu es Dieu. Et ce matin, tu es ici, Seigneur. Tout en toi est grand. Ton amour est grand. Ta bonté est grande. Ta miséricorde est grande. Ta compassion est grande. Oh, merci pour tout ce que tu es pour nous, oh Dieu. Et ce matin, tu vas nous faire du bien. Ta parole est merveilleuse, oh Dieu. Et cette parole qui purifie, cette parole qui relève, qui bénit et qui guérit. Agis ce matin à travers ta servante que tu t'es choisie pour parler à ton peuple. Que la fraîche rosée, l'onction de Dieu, déborde en elle, Seigneur. Qu'il ne sorte de sa bouche qu'elle ainsi dit l'Éternel. Bénis ton peuple et bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Ce matin, nous avons quelqu'un qui va nous parler de la part de Dieu. Notre maman n'est plus à présenter. Pasteur Rebecca Moore. Si je dois dire quelque chose, c'est mon professeur de l'Ancien Testament, dans le programme de master. Elle a tellement bien enseigné ce cours que j'ai beaucoup aimé. Amen, amen. Et nous sommes dans la joie de le recevoir pour nous parler de la part de Dieu. Maman Rebecca.
Bonjour à tous. Wow. Notre Dieu est grand. Depuis le grand matin, j'ai vraiment ressenti une présence manifeste spéciale de Dieu depuis chez moi. Et quand j'ai écouté les dernières deux cantiques, merci beaucoup d'adoration, qui a proclamé la grandeur de Dieu, j'ai dit, mais ça, c'est pour nous mettre l'arrière-plan pour ce message. Parce que ce matin, je veux vous parler du Dieu qui poursuit. Le Dieu qui poursuit. C'est étonnant quand même, quand nous considérons la grandeur de Dieu, telle comme nous avons chanté. La Bible ne compare Dieu à personne. La Bible donne des déclarations absolues, comme en commençant avec « je suis ». Pas je suis quelque chose ou je suis quelqu'un, je suis simplement. La Bible ne déclare pas qu'il est plus grand que, parce qu'il n'y a personne ni Dieu ni esprit à qui on peut lui comparer. C'est simplement je suis. Il est grand, point bas. Pas il est plus grand que, il est grand. Ce n'est pas « il est plus saint que » ou comme mes chers étudiants aiment dire parfois « trois fois saint ». Non, il n'est pas trois fois saint. Parce que ça laisse la possibilité que quelqu'un pouvait être quatre fois saint et être plus saint que lui. Il est seulement saint. Il n'est pas un Dieu qui aime beaucoup, un Dieu de beaucoup d'amour. Il est simplement amour. Ce sont des déclarations absolues. Et ce qui est étonnant, c'est que ce grand Dieu, ce Dieu transcendant, pour utiliser ces bonnes mots théologiques, ça veut dire simplement, il est au-delà de tout. ce Dieu-là, il nous a vus un jour, bon, pas un jour, depuis l'éternité, dans notre misère, dans notre péché, dans notre chaos. Et il n'a pas resté dans sa transcendance. Il a pris la forme humaine. Il est venu pour que nous pouvions le toucher, le voir, l'écouter. Et c'est de ce Dieu-là que je veux vous parler ce matin. Sans oublier qu'il est le grand Dieu transcendant. Parce que ce que je suis n'a pas de sens si nous oublions ça. Il est le grand Dieu, mais il est le Dieu qui poursuit. Il est le Dieu qui désire une relation personnelle. Il est le Dieu qui veut être mon Dieu et notre Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand nous voyons plusieurs exemples, j'ai choisi deux seulement, mais nous voyons plusieurs exemples. Quand les gens adressent déjà Dieu comme ton Dieu, ou le Dieu du prophète, ou le Dieu du sacrificateur, ou même le Dieu d'Israël parfois, déjà ça nous indique qu'il y a un problème. Vous savez, c'est des modes aujourd'hui au Congo. Quand même à Kisangani, je ne sais pas de Kinshasa, mais à Kisangani, c'est des modes. Qu'on ne prie pas directement à Dieu. On doit prier au Dieu de Pasteur Eli. Ah, si vous voulez vraiment vous connecter avec Dieu, il faut prier au Dieu de Pasteur Marcel, non? Là, vous allez vraiment vous connecter quelque part. J'ai écouté, malheureusement, même des enseignements dans nos églises, de notre communauté, avec quelques-uns de nos chers pasteurs qui disent, vous-même, vous ne pouvez pas avoir, entrer directement en alliance avec Dieu. Il faut entrer par ton papa spirituel qui a son alliance avec Dieu. Je sais que vous n'écoutez pas ces prédications ici. Et ce matin ici, je suis en train de vous dire que il n'y a pas ton Dieu, il y a mon Dieu. Regarde avec moi dans le livre de 1 Samuel. Je ne vais pas traîner ici, mais on va analyser en bref cette histoire de Saoul. Vous connaissez l'histoire de Saoul et les Amalécites? Qui connaît cette histoire? Et 4 personnes. Ok, les autres? Lisez la Bible cette année. Ok. 1 Samuel 15, Dieu a demandé à Saoul d'aller détruire les Amalécites. Dieu était catégorique. Tu ne laisses rien en vie. Tu ne prends pas le butin de guerre. Tu tues les animaux. Tu brûles les villes. Tu ne prends rien. Ça doit être consacré à moi seulement. Vous connaissez l'histoire, sinon lisez toute l'histoire d'1 Samuel 15. Saoul, en lieu de rentrer directement chez lui, après qu'il va partir, il va battre quand même les Amalécites, il va détruire tout qui est vil, tout qui n'est pas bon, mais il va garder en vie quelques personnes, il va garder en vie beaucoup de brebis, des moutons, des bœufs, des animaux et tout ça. Il va aller, si vous regardez la carte, il va dépasser chez lui qui était au centre. Il va aller construire un grand monument à lui-même pour sa victoire sur Amalek, sur le mont Carmel, et après il va rentrer chez lui. Sans aller donner un compte rendu à Samuel. Hein? Et Samuel va venir lui confronter parce que tu ne caches pas de Dieu. Comme on a dit, il est grand, il est omniprésent, il est omniscient. Et Samuel va lui confronter. Et il va dire, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a donné des ordres, pourquoi tu n'as pas obéi? Regarde avec moi verset 15. Je vais faire sortir un peu des versets 15, verset 21, verset 30. Regardez la phrase préoccupante ici. Saul répondit, ils, les peuples, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel qui? Il ne dit pas, on a voulu offrir des sacrifices à notre Dieu. Ce qu'il devait dire en tant que roi d'Israël. Il a dit, nous avons gardé ces animaux pour sacrifier à ton Dieu. Bon, d'abord, ça c'était un mensonge. C'était carrément un mensonge. Parce que si tel était le cas, tu devais venir directement des champs de bataille jusqu'à Silo et le sanctuaire. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est détourné, il a fait toutes ses manœuvres, il a menti. Mais il a dit, nous voulons sacrifier à ton Dieu. Même chose verset 21, après plus de discussions. Le peuple a pris sur le boutin des brebis, des bœufs et tout ça, afin de les sacrifier, il répète encore, à l'Éternel. Verset 30. Quand Samuel finalement va dire Saul, Saul, tu n'as pas compris. Dieu n'est pas content. Il ne veut pas tes excuses. Il ne veut pas ton sacrifice. Il te veut. Il veut toi-même. Il veut ton obéissance. Il veut ta vie. Saul a refusé. Il a cherché à remplacer la soumission avec l'adoration. Il a cherché à remplacer la soumission avec l'adoration. C'est-à-dire quoi? Oui, oui, Samuel, je sais que j'ai mal fait, mais... Verset 30. J'ai péché. Ok, c'est bien, j'ai péché. Maintenant, honore-moi. Ok, si tu viens de reconnaître que tu as péché, est-ce que la phrase suivante doit être honore-moi? Honore-moi en présence des anciens de mon peuple. Alors, le peuple sont à moi, non? Et en présence d'Israël, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel, hein? Ton Dieu, le peuple sont à moi, Dieu, il est ton Dieu. Ça entre où dans le calcul? Quand nous voyons quelqu'un qui veut toujours identifier Dieu comme le Dieu des tels, il y a un problème. Pourquoi éloignons-nous de Dieu? Quelles sont les raisons qui nous poussent à chercher un intermédiaire, qui nous poussent à chercher l'alliance avec le Dieu des pasteurs tels, aux prophètes tels. Parce que souvent, la relation directe avec Dieu, s'il devient mon Dieu, cette relation menace mes intérêts. Cette relation menace mes intérêts. Je ne peux pas garder tous les moutons et tous les bœufs si je me soumets complètement à Dieu. Si je reconnais qu'il est mon Seigneur. Nous l'appelons notre Sauveur. Et souvent, nous disons d'abord notre Seigneur et Sauveur. Mais en réalité, il nous a sauvés. Et voilà pourquoi il est notre Seigneur. Nous ne pouvons pas dire non, Seigneur. Cette phrase n'est pas logique. S'il est le chef, on dit oui. Mais quand nous nous approchons à Dieu, quand il devient mon Dieu, ça peut menacer mes intérêts, mon programme, mes plans. Peut-être, quand je m'approche, je me rends compte de mes péchés, de mon état pécheré, des pécheurs. Je me rends compte que je suis vraiment loin de lui et je veux garder mes péchés chéris. Alors, c'est plus facile seulement de mettre l'argent dans le panier que de venir me soumettre à Dieu et l'appeler mon Dieu. C'est plus facile de donner une offrande au Dieu de l'église, la bannière, que de venir et me présenter comme offrande devant mon Dieu. Cette relation directe avec Dieu peut parfois menacer ma position. Si j'avoue, comme Saül, que j'ai mal fait et je dois m'arranger avec Dieu, alors je vais perdre le respect du peuple. Je vais perdre le respect. Vous ne savez pas qui suis-je dans la société. Dans cette histoire, malheureusement, l'histoire s'est mal finie parce que Saül a refusé catégoriquement de repentir. Mais je veux nous parler de notre histoire qui a fini différemment. Parce que même avec Saül, vous voyez, ça n'est pas la première fois que Dieu vient auprès de lui. C'est la dernière fois. Bon, avant-dernière fois. Mais je veux maintenant considérer l'histoire de Jacob. Parce que Jacob, c'était aussi dans une situation un peu pareille, de fuite de Dieu. Regarde avec moi dans Genèse 28. Genèse 28. À ce point dans l'histoire, Jacob a essayé à tromper son père pour gagner la bénédiction. Il a fait ses manœuvres déjà même avant ça, avec l'accord avec Esaü, tu me vends ton droit de primature d'ânesse, merci. Il a tout fait pour arranger sa vie. Et sa maman aussi lui a aidé dans le... Bon, c'est comme si le dernier complot, c'était son idée. Il a tout fait. Parce qu'en tout cas, j'ai des promesses sur ma vie. Hein? Je vais devenir grand. Il a cherché tout. Mais sans Dieu. Finalement, il est obligé de fuir. Et vous savez, nos plans souvent sont comme ça. Nos plans, quand nous-mêmes nous cherchons à le réaliser, terminent en échec. En court terme ou long terme, mais ils terminent dans l'échec. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu et passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges des dieux montaient et descendaient par cette échelle. Je trouve ça très intéressant. Qui a placé l'échelle? Jacob ou Dieu? Qui a placé l'échelle? Hey, yo, le prof a posé une question. Qui a placé l'échelle? C'est Dieu qui a placé l'échelle. Jacob n'avait aucune idée de chercher Dieu. Jacob s'était enfoui. Lui-même va démontrer son effrayeur, sa peur, face à la présence manifeste de Dieu. Mais même quand Jacob est en fuite, même quand Jacob il pense qu'il va échapper cette famille que Dieu a dit, je vais amener la bénédiction pour toutes les nations, je vais amener le Messie à travers cette famille. Jacob a dit, eh, pas moi, ouais. Et il fuit. Et dans sa fuite, Dieu a fait descendre une échelle du ciel. Ce n'était pas Jacob. Ce n'était pas Jacob qui disait, bon, j'ai besoin que Dieu intervienne de ma part avec Esaü. Non, il ne pensait même pas à ça. Il voulait dormir parce qu'il était épuisé, probablement émotionnellement, physiquement et tout. Il voulait dormir. Et Dieu fait descendre une échelle. Et Dieu va le parler. Verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, l'échelle, Il dit, je suis l'Éternel. Et c'est pressant parce que Jacob, c'était toujours dans une culture, une mentalité polythéiste. Dieu va préciser, je ne suis pas n'importe quel Dieu. Je suis le même Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. C'est le même Dieu. Le Dieu qu'Abraham a reconnu comme le Dieu très haut. C'est moi. C'est moi qui te parle, Jacob. Le Dieu d'Isaac aussi, qu'il a reconnu comme le Dieu très haut. Et moi, c'est moi l'Éternel que je te parle. À toi maintenant, à ton tour. Dieu s'est pressant. Dieu s'est pressant comme le Dieu très haut, comme le seul Dieu. Parce que quand il disait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il était en train d'invoquer la révélation que ces deux personnes ont eue de Dieu pour que Jacob sache c'est qui ce Dieu-là. Ce n'est pas Marduk, ce n'est pas Isis, ce n'est pas tous ces autres dieux, c'est l'Éternel, celui qui a parlé à Abraham et Isaac. Mais attends, Jacob, c'est maintenant à toi que je parle. Ce n'est plus à Abraham, ce n'est plus à Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. Il n'a pas dit à Abraham, il a dit à toi et à ta postérité. Bien sûr, c'est dans la ligne d'Abraham, mais à toi. Ta postérité. Il n'a pas dit, toi comparti de la postérité déjà d'Abraham. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, l'Orient, Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je crois que dans cette église, nous comprenons ça, ne parle que de Jésus, n'est-ce pas? Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Et j'aime la dernière partie de ce verset. Ça, c'est vraiment le, si je peux dire, le texte clé d'aujourd'hui. Car je ne vais pas te laisser. Il a ressuscité. Très bien. Je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que j'ai achevé ce que moi je veux faire. Ça, c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas phrasé. Ça, c'est la version de Rebecca. Louis II dit, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. J'ai des plans. J'ai un plan pour le salut de l'humanité, parce que ça, c'est la promesse que Dieu a répétée. Que toutes les nations de la terre soient bénies dans ta postérité. J'ai un plan pour le salut de l'humanité. Et ta rébellion, Jacob, ta fuite, ta têtudesse ne va pas empêcher mon plan. Moi, je vais te poursuivre. Moi, je ne vais pas te laisser comme ça. Écoute-moi bien, mes frères. Je suis en train de parler ce matin à deux groupes de personnes. D'abord, si vous êtes ici et vous n'avez jamais vraiment donné ta vie à Jésus comme sauveur, d'abord. Vous êtes en train de venir à l'église, peut-être régulièrement, mais vous ne voulez pas vraiment donner ta vie à Jésus, parce que si tu donnes ta vie à Jésus, il va exiger que tu laisses certaines choses. Tu dois abandonner certaines relations. Tu dois abandonner certaines pratiques. Alors tu dis, bon, quand même, je vais assister et Dieu va me voir dans l'église. Je vais donner mon offrande, ça va passer. Non, ça ne passe pas. Ce matin, je te dis, Dieu ne va pas te laisser jusqu'à ce que tu viennes au pied de la croix. Le deuxième groupe de personnes à qui je m'adresse ce matin, Ce sont les gens que tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose pour lui et tu es en train de fuir son appel. Quand Dieu a des plans sur ta vie, il va te poursuivre. D'abord pour te sauver, parce que ça c'est le plan de Dieu pour toute l'humanité. Il va te poursuivre jusqu'à que tu viennes à lui. Il va continuer à traiter ton cœur jusqu'à que tu dis, Seigneur, je me rends. Ce n'est plus mes plans. Ce sont tes plans. Fais ce que tu veux. Et Dieu a dit clairement à Jacob, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser jusqu'à que j'ai fini tout mon plan, jusqu'à que j'ai exécuté tout. J'ai un plan à réaliser. Jacob, c'était quoi sa réponse? Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Dieu lui a poursuivi dans les lieux inattendus. Ce n'était pas dans le temple. Bon, le temple n'était pas construit. Ce n'était pas devant un autel consacré au Dieu très haut. Non. C'était au milieu du désert avec une pierre pour son oreiller. Et dans ce lieu de désespoir, Dieu s'est révélé. Il avait peur. Parce que quand Dieu se présente et nous sommes dans la fuite, nous sommes dans le péché, nous sommes dans la rébellion, la présence de Dieu est effrayante. Mais Dieu est venu. Il est venu. Maintenant, verset 18, Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. La deuxième réaction, c'était presque obligatoire. Il adorait. La présence de Dieu était tellement forte, il ne pouvait que reconnaître que vraiment tu es Dieu. Mais malheureusement, il s'arrêtait au niveau de l'adoration. Regarde verset 21. Bon, commençons avec 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. » Tu vois les « si ». C'est le « si » conditionnel, n'est-ce pas? Il commence à imposer des conditions à Dieu. Mais attendez, Jacob, comment tu veux négocier avec le grand Dieu? Mes frères, je vous dis déjà, ça n'est pas une prière à imiter. Ce n'est pas comme le Notre Père qu'on va parler à la fin. Ce n'est pas une prière de soumission. Ça, c'est une prière qui dit, je reconnais que tu es un grand Dieu. Mais d'abord, j'ai des conditions avant que je me soumette à toi. Il le dit clairement. Si tu fais toutes ces choses pour moi, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Hey, mais attendons, tu viens de voir une vision du ciel, oh. Tu viens de voir l'échelle, d'écouter la voix de Dieu, peut-être même de voir une image de Dieu, une représentation de Dieu. Tu as vu tout ça. Et tu dis, mais si je veux voir si servir Dieu est dans mes intérêts, si Dieu va m'aider avec mes intérêts, alors il sera mon Dieu. Sinon, bon, je cherche un autre Dieu. Il n'a pas compris. Mais Dieu n'a pas laissé. Dieu n'a pas dit, hé, petit, vraiment, que faut-il que je fasse davantage? Non! Dieu a dit, ok, on va voir. Alors, à cause de sa têtudesse, il devait passer 20 ans vraiment pénibles avec un autre qui était plus rusé que lui. Ou presque plus rusé que lui. C'était dans le sang, là-bas. Il va passer 20 ans pendant lesquels sa chère maman va mourir. Il ne le verra jamais plus. Sa famille sera vraiment séparée, éloignée. Pour ne même pas parler de son frère. Il est vraiment éloigné de tout ça. Mais Dieu va le poursuivre même dans ses complications. Si je peux le dire, c'est presque comme si Dieu complique les choses davantage. Pour que Jacob soit obligé de rentrer à la maison paternelle. Et après 20 ans de souffrance, de difficultés, de tromperies, de mensonges, de tout ça, de menaces, il rentre. Chapitre 22, 32, pardon. Il a une rencontre personnelle avec Dieu. Mais même pendant ce chapitre, nous ne voyons pas une soumission complète. Ce chapitre 35, quand nous voyons, il est maintenant rentré chez lui, chez la famille. Regarde avec moi, chapitre 35. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Maintenant, Dieu n'a plus besoin de se présenter. Il ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, il parle directement, personnellement. Lève-toi, monte à Bethel. Bethel, c'est le lieu où Dieu s'est révélé avec le ciel. Et demeurez-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu de tes pères. N'est-ce pas? Quelques-uns, vous êtes en train de dire oui parce que ça vous convient. Lisez bien, et dis quoi? Au Dieu qui t'a paru. Maintenant, Dieu ne dit pas, venez m'adorer comme le Dieu de tes ancêtres. Viens reconnaître, rentrons à la base. Où nous avons commencé. Parce que moi, je t'avais dit que je ne vais pas te laisser. Et je tiens ma parole. Une vingtaine d'années après, Dieu revient et il dit, et maintenant, Jacob? Maintenant, est-ce que tu peux m'adorer comme ton Dieu? Est-ce que maintenant, moi, je peux avoir la direction de ta vie? Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Saül, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. C'est grand temps. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à mon Dieu, au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il n'y a plus mention d'Abraham, d'Isaac. Jacob, mais c'est seulement Jacob parce que nous sommes avec Jacob. L'Éternel n'était plus le Dieu de mes pères. Il est devenu mon Dieu. Mon Dieu. Jésus lui-même, vous savez, le Notre Père, la prière modèle que Jésus nous a donnée, c'était vraiment une prière radicale pour son époque. Parce que depuis l'époque rabbinique, c'est-à-dire le deux siècles avant Jésus, les rabbis avaient développé une série de 18 prières que les juifs orthodoxes devaient répéter chaque jour. Et la majorité de ces 18 prières commençait en adressant Dieu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une fois, il était appelé le Tout-Puissant. Une autre fois, il était appelé le Dieu qui rabâtit Jérusalem. Il avait tous ces titres. Mais Jésus va simplifier tout ça. Il dit, quand vous allez prier, vous n'allez pas prier au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez prier notre Père. Pas le Dieu de même pas le Dieu de Jésus. Jésus lui-même, il pouvait dire ça, parce que nous prions à travers d'elle. Mais en nous donnant un modèle, il disait non, approchez-vous, approchez-vous. On prie à notre Père. Il est mon Dieu. Et quand je dis notre Dieu, je comprends que la même relation que j'ai avec lui, il invite tous les autres aussi d'en avoir. C'est vraiment formidable. Ce grand Dieu veut me connaître personnellement. Et il va me poursuivre jusqu'à ce que je me rends. Jusqu'à ce que je me rends. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire ici ou pas, mais C.S. Lewis, qui était un théologien et enseignant britannique du XXe siècle, il racontait son témoignage de comment lui, il a accepté Jésus. Il disait, pour moi, cette image de Jésus qui frappe à la porte du cœur et qui attend qu'on ouvre, il dit, ça n'est pas le Jésus que j'ai connu. Il dit, avec moi, parce qu'il était un athée, il disait, quand j'ai aperçu que Jésus approchait à la porte de mon cœur, j'ai barricadé la porte. J'ai mis tous les meubles devant la porte, la table, les chaises et tout, tout, tout. J'ai bloqué, barricadé pour qu'il n'entre pas. Et je suis allée me cacher. Mais Jésus, il est venu. Il a frappé la porte. Il n'y avait pas de réponse. Il n'est pas tenu en silence dehors. Il a cassé la porte. Il a jeté mon barricade partout. Il m'a poursuivi d'une pièce à l'autre pièce de la maison pendant que moi j'ai cherché à me cacher et me fuir. Il m'a poursuivi jusqu'à arriver au coin d'une chambre. Il m'a bloqué où je ne pouvais plus fuir. Il m'a pris. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, tu es à moi. Il est le Dieu qui poursuit. Et vraiment, ça, c'est plus l'image que la Bible nous donne. Il est le Dieu qui a laissé la gloire. Il est le Dieu qui vient en poursuite de l'homme. Et même quand nous disons, non, 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 j'ai mes plans. Dieu dit, moi aussi, j'ai mes plans et je suis plus grand que toi. Ce matin, si vous êtes ici, et vous n'avez pas donné ta vie à Jésus, je vous invite, laissez la barricade, peut-être il est en train déjà de casser cette barricade, laissez tes excuses, laissez tes péchés chéris, laissez tes habitudes, tes coutumes, tes relations, tout qui te bloque, que tu sais, est une barrière entre toi et Dieu. Et ce matin, dit, Seigneur, me voici. Je suis fatiguée de fuir. Je suis fatiguée de donner des excuses. Je viens à toi. Si tu peux faire quelque chose avec ma vie, je viens avec ma saleté. Je viens avec mes bêtises, je viens avec tout que je suis et je le dépose devant toi. Si toi tu peux me purifier, si tu peux faire quelque chose, fais-le Seigneur, je suis prêt. Si tu dis, Jésus, je lui ai demandé d'entrer dans ma vie comme sauveur déjà, mais il est en train de me demander de faire des choses que je ne veux pas faire. Il veut changer la direction complètement de ma vie, pas seulement dans les choses du péché, mais même ce que je fais. Ce matin, il a un plan pour toi dans sa mission. Il ne va pas te laisser jusqu'à ce que tu rentres. On va prier ce matin. Et si tu es concerné par l'un ou l'autre de ces deux situations, par ces deux appels, vous pouvez tenir debout si vous voulez, comme un acte de la foi, nous allons prier avec vous. Mais comme je viens de parler, il n'y a pas des intermédiaires, c'est toi et Dieu que vous devez parler. Tenez debout, les autres, on va prier. Inclinez le visage, commencez à prier et dire, Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Fais ce que tu veux, je ne veux plus fuir. Je ne veux plus fuir. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. Avec les cœurs, Seigneur, troublés par ta présence, peut-être ce matin, avec le cœur vraiment bouleversé, peut-être même agacé ou amer, parce qu'il y a un certain niveau de tristesse au fond de nous. Mais Seigneur, ceux qui sont debout, peut-être d'autres, nous sommes en train de dire, Seigneur, je suis fatigué de fuir. Si c'est de fuir ton salut, ou si c'est de fuir ton appel, je ne sais pas. Mais Seigneur, je prie. Je sais que c'est toi qui as déjà fait le premier pas. Je n'ai même pas besoin de te demander de venir. Tu es déjà là. Voilà pourquoi tu as attiré le cœur. Sauve ceux qui ont besoin du pardon, du salut. Mais il faut crier à lui ce que son début. Dites-lui clairement, Seigneur, je me rends. Je me rends. Quoi que ce soit les choses qui te bloquent, dis-le à lui. Et dis, Seigneur, prends-moi. Je ne vais plus fuir. Je ne vais plus fuir. Je viens à toi. Seigneur, si je dois changer le boulot, je vais le changer. Si je dois abandonner une certaine relation, je vais l'abandonner. Si je dois, je ne sais pas. Si je dois commencer à travailler dans un certain ministère, département de l'église que j'ai refusé jusque maintenant, mais je vais cette semaine aller parler avec le responsable. Quoi que ce soit l'obstacle, quoi que soit la fuite, venez à lui et dire, Seigneur, je me rends. Je ne fuis plus. Je ne fuis plus. Seigneur, prends-moi. Peut-être c'est simplement Dieu t'a demandé de parler à ton voisin, ta voisine de Jésus, et tu as donné beaucoup d'excuses. Et dit non, je veux t'utiliser pour l'avancement de mon royaume. Ouvre ta bouche et parle de moi à cette voisine qui est là, dans la cuisine à côté, dans la parcelle à côté. Seigneur, sers-toi de nous. Nous ne voulons plus fuir. Merci, Seigneur.
Nous continuons la prière, s'il vous plaît. Encore en train de lutter avec Dieu, qui cherche les honneurs, au lieu d'être humilié, au lieu de s'humilier soi-même, pour que Dieu le relève. Je vous donne l'occasion de vous lever aussi, on va prier pour vous, on va prier avec vous. Ne luttez pas comme David, comme Jacob. Il luttait avec Dieu, ne luttons pas contre cette personne qui a barricadé sa porte. Le Seigneur te réclame parce qu'il t'aime. C'est le jour de salut aujourd'hui. C'est le jour de grâce. Ce n'est pas un jour de condamnation. Alléluia. Merci pour vous qui vous levez. Merci encore. Est-ce que vous nous levez maintenant tous ensemble? Nous levons tous ensemble maintenant. J'aimerais que nous puissions parler à Dieu nous-mêmes. Parle à Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Adresse-toi à celui, à ce Dieu-là comme ton Dieu. Il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père. Il t'aime. Regardez ce qu'il a fait avec Jacob. malgré son mensonge, malgré sa fuite, Dieu l'a poursuivi, non pas pour le détruire, mais pour le restaurer, pour le relever. Dieu veut te restaurer, il veut te relever, il veut être ton Dieu, il veut être ton Père. Parle à Dieu, alléluia. En parlant à Dieu, il n'y a pas une naissance en train de s'avancer, alléluia. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à nos cœurs, Père. Tu nous as fait du bien parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es un Père aimant. Un Père qui nous cherche, qui nous poursuit. Non pas pour nous détruire, Seigneur, mais pour nous restaurer, nous relever, nous faire du bien. Oh, sois béni. Alléluia, nous nous donnons à toi. Je me donne à toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Nous prions avec le Père Ernest. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur.
Précieux Père Céleste, quel amour ce matin. Tu nous amènes ta parole pour que celle-ci nous aiguise en nous emmenant dans les profondeurs. Oui, tu es le Dieu qui nous poursuit. Oui, David pouvait dire, où fuirai-je? Loin de ta face. Où me cacherai-je? Parce que Seigneur, tu as non seulement les capacités, mais aussi les moyens de me retrouver. Rien n'est impossible à toi. Mais ce matin, c'est le plan du salut que tu nous présentes simplement. Tu es le Sauveur. Et tu nous veux à toi et à toi tout seul. Seigneur, merci. Parce que nous prenons conscience que sans toi, il n'y a aucune réussite dans n'importe quel plan. Parce que c'est toi qui connais les projets que tu as formés pour nous. Projet de paix, tu dis. Pour nous donner un avenir et une espérance. Jésus, tu es notre espérance. Alors que nous sommes à l'orée de cette année, ta servante est venue nous secouer. En disant que tu es notre Père. Tu es le Père qui nous aime et tu es le Père qui veut que nous soyons avec toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens au secours de notre faiblesse, viens au secours de notre rébellion, viens au secours de notre résistance, viens au secours de nos doutes. Viens au secours de nos handicaps. Saint-Esprit, secours le peuple. Nous avons besoin de toi. Merci pour l'onction de cette parole qui va réveiller le peuple pour marcher dans la victoire acquise à la croix. Jésus, à toi seul honneur, à toi seul magnificence, parce que tu règnes. Bénis ta servante et bénis cette parole dans le cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Nous allons.